présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Il y a un peu moins de deux semaines, le 1er février dernier, des dirigeants et responsables de toutes confessions et de toutes origines se sont rendus à Auschwitz dans l'optique de lutter contre le négationnisme dans leur pays. Ce voyage a eu lieu dans le cadre du projet Aladdin, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui veut justement s'attaquer au négationnisme et à l'antisémitisme, qui se développent parfois, trop souvent, dans certains pays musulmans. L'idée de départ, développée en 2009, est de diffuser des informations et quelques grands textes dans ces régions, en mettant sur pied des traductions en langue arabe afin de les mettre gratuitement à disposition sur Internet. Mais le projet Aladdin a mis en place bien d'autres actions que nous allons évoquer avec Anne-Marie Rivkolevski, présidente de ce projet, mais aussi créatrice de l'émission Mémoire Vive que vous écoutez en ce moment. Anne-Marie Rivkolevski, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler l'événement déclencheur qui vous a poussé à monter ce projet Aladdin ?
Vous l'avez très bien dit. En fait, le projet Aladdin est né quand je dirigeais la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Lorsque nous avons été un certain nombre à écouter le président Ahmadinejad lancer son premier colloque négationniste à Téhéran, et nous étions certains à nous demander comment réagir par rapport à ce négationnisme qui était non seulement une voie extrêmement dangereuse en Iran, mais qui avait comme conséquence de diffuser des livres et des brochures dans le monde iranien, mais également dans le monde arabe, et en même temps de diffuser par des sites internet et des blogs une littérature franchement négationniste. Donc on a mis un certain temps à se demander ce qu'il fallait faire. Et en fait, on a compris que la seule façon de répondre, enfin, pas la seule façon, mais en tous les cas, il y avait une façon de répondre à ce négationnisme, c'était de répondre dans la langue de ceux qui niaient l'Holocauste. Parce qu'on s'était aperçu que les ouvrages de base sur la Shoah n'existaient pas dans ces langues. Et lorsque j'ai fait à ce moment-là une enquête où j'ai été regarder dans les différentes librairies, sur les différents sites, est-ce qu'on trouvait des ouvrages aussi classiques que Anne Frank ou bien Primo Levi ? Eh bien, on ne les trouvait pas. Et on ne trouvait rien à cette époque. Donc le bon sens était de commencer à combattre l'ignorance en traduisant des livres qui étaient les grands classiques. Et c'est comme ça, en fait, qu'Aladdin est né. Nous avons donc commencé par choisir les titres qui étaient les plus évidents. C'était donc le journal d'Anne Frank, même si le journal d'Anne Frank ne parle pas, ne décrit pas l'Holocauste ou la Shoah. Mais c'est vraiment le livre que toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens avaient lu, sauf dans les pays arabes et en Iran. Et puis, Primo Levi, puisque Primo Levi, c'était les deux témoins. Ensuite, on avait pris deux livres. L'un était un petit livre d'historien, hein, Philippe Burin, un historien suisse qui est très connu, qui était petit, donc c'était facile à lire. Et puis, il nous fallait un livre qui soit incontestable. Alors, on avait choisi un des livres très durs, qui était le livre de Shlomo Venezia. Shlomo Venezia était donc un de ces rescapés des Sonderkommando qui était au camp de Birkenau et dont le travail était de charrier les cadavres des chambres à gaz vers les fours crématoires. Donc c'était les quatre premiers livres qu'on a décidé avec le comité des historiens de traduire en arabe et en persan. Et à ce moment-là, on a construit cette fameuse bibliothèque virtuelle, la bibliothèque Aladdin, en décidant, avec les éditions, le manuscrit, que les internautes pourraient télécharger ces livres absolument gratuitement. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'Aladdin a commencé.
Alors justement, pour en venir à cette bibliothèque numérique, qui est vraiment un élément phare du projet Aladdin, est-ce que vous avez un moyen de savoir qui télécharge, qui lit et en quelle quantité sont téléchargés et consultés les ouvrages ? Parce que vous avez aussi le projet d'en mettre de plus en plus en ligne.
Tout à fait. D'ailleurs, on en a cinq autres kits qui sont déjà traduits et qu'on va bientôt mettre en ligne. Les quatre premiers donc, ont été traduits en persan et en arabe. À ce jour, donc, ça a été lancé en mars 2009. Donc, il y a exactement aujourd'hui 19 718 livres qui ont été téléchargés, 10 000 en langue persane, 9 000 en langue arabe. Alors, souvent on me demande, mais qu'est-ce que ça a comme impact ? Mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que les lecteurs ont pensé de la lecture, mais ça, c'est comme n'importe quel livre. On sait combien on lit de livres, mais on sait combien on en vend. On ne sait pas exactement quelles sont toujours les réactions. D'autant que on a des réactions d'internautes qui... qui nous explique combien ces livres sont intéressants. Il n'y a pas de forum hein, sur le site, parce que là j'ai parlé de la bibliothèque, mais il y a aussi un site qui est en 5 langues, donc en français, en anglais, en arabe, en persan et en turc. Il n'y a pas de forum d'internautes, mais par contre, il y a beaucoup d'internautes qui nous écrivent en disant, écoutez, voilà, j'ai téléchargé ce livre, mais où est-ce qu'on peut le trouver ? Est-ce que vous avez l'intention d'en mettre d'autres ? Donc, l'impact, je ne peux pas le dire, mais ce que je peux dire, c'est que je sais, par exemple, qu'en Iran, il y a des enseignants qui ont beaucoup téléchargé le livre de Philippe Burin et qui l'ont donné à lire à leurs étudiants parce qu'ils nous ont écrit. Donc ça, je sais que selon les... On va pas dire les villes, parce que ça, je ne le sais pas, mais selon les pays, je sais exactement qu'Anne Frank est beaucoup téléchargée en Iran, par exemple, que Philippe Burin est également téléchargé en Iran, que Primo Levi, par contre, est beaucoup plus téléchargé en arabe. Donc nous avons le sentiment que sans faire beaucoup de bruit, ces livres sont régulièrement téléchargés, parfois un peu sous le manteau, mais que lentement, ils ont gagné du terrain dans certaines élites, évidemment. Et on nous demande là maintenant de plus en plus quels sont les prochains. Donc nous avons effectivement 5 autres livres maintenant qui sont déjà traduits. Nous ne pouvons pas encore tous les mettre en ligne parce que nous n'avons pas toujours les droits, parce qu'il faut toujours acheter les droits numériques. Mais nous avons fait un travail absolument formidable puisque nous venons de traduire le premier tome de Raoul Hilbert, La destruction des Juifs d'Europe. Bon, ça c'est 700 pages. Si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Donc on l'a fait. On a fait Le dernier Juif de Treblinka. On a fait Shoah de Lanzmann, on a traduit un livre de Bloxham sur le génocide, un livre anglais, et on a traduit un livre extrêmement pédagogique avec des photos assez impressionnantes d'Anne Grimbert. Donc ça, ce sont les 5 prochains livres qui sont un peu les classiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va que traduire des livres qui portent sur la Shoah.
Alors si on revient à Marie Revkolevsky avec vous sur la naissance du projet Aladdin, donc vous nous avez bien dit que c'était donc autour de cette question du négationnisme qui grandissait dans certains pays. Est-ce qu'on a des outils justement pour mesurer, pour prendre un peu connaissance de l'état de ces questions du négationnisme, de l'antisémitisme dans certains pays ?
D'abord, il ne faut pas mélanger antisémitisme et négationnisme. Il y a d'une part, bon, effectivement, Aladdin a commencé par pointer le négationnisme, et répondait avec de l'information sur la connaissance de la Shoah. Mais le deuxième aspect qui était important pour Aladdin, c'était pas simplement qu'on connaisse bien la Shoah, mais qu'on fasse pas d'amalgame avec la Shoah, puisque la Shoah est mise à toutes les sauces et qu'on confond absolument tout. Les Israéliens sont les nouveaux nazis, Jenin c'est le ghetto de Varsovie, c'est-à-dire qu'il y avait cette double approche, c'est-à-dire dire l'histoire, mais aussi bien mettre des verrous pour qu'on ne confonde pas tous les génocides, tous les conflits, tous les massacres, ce qui est plus difficile parce qu'il est bien évident que quand les gens, même de meilleure volonté, quand ils vont avoir accès à un massacre ou à une guerre, à un génocide, ça passe très souvent par leur propre grille. Donc il faut un certain temps pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de la même nature. Donc c'est le deuxième aspect sur lequel nous avons travaillé. Et vous me demandez comment est-ce qu'on sait qu'il y a du négationnisme ou il y a de l'antisémitisme. Alors je vais prendre l'exemple de l'Iran. C'est extrêmement facile de le savoir parce qu'on regarde les publications qui sortent. Et on le trouve d'ailleurs sur le site d'Aladdin, projet Aladdin, eh bien, à la dernière foire du livre de Téhéran, nous avons eu exactement la liste de tous les titres d'ouvrages qui sont parus. Et alors là, c'était extrêmement facile, ça se trouve la liste hein, sur notre site, on voit les livres qui sont franchement négationnistes, les livres qui sont franchement antisémites, et puis il y a les livres qui sont franchement antisionistes. Donc c'est assez facile de voir que vous avez soudain une augmentation de livres négationnistes, parce que ça va s'accompagner de déclarations du président iranien. Et lorsqu'on voit aussi le programme du président iranien et du numéro 2 du régime, on s'aperçoit qu'au titre de leur priorité, le négationnisme est mis comme une action de la politique étrangère. Donc c'est explicite. Donc c'est avec des ouvrages comme ça, des sites, des blogs, qu'on peut comprendre dans quelle mesure ça monte ou ça descend.
Alors on imagine bien, Anne-Marie Revkolevsky, que pour mettre en place un tel projet, il vous faut des partenaires, il vous faut des parrains, et cela dans des pays aussi bien de tradition juive que dans des pays, au contraire, de tradition musulmane ou de toute tradition. Donc il vous faut des partenaires un peu partout. Comment vous avez fait pour réunir comme ça des forces vives ensemble ?
Je crois que quand on a lancé le projet, on s'est rendu compte que d'abord, il y a dans les pays musulmans des forces modérées. On le voit aujourd'hui, hein, avec les événements en Égypte et en Tunisie, mais il y a des forces modérées. Et puis tous les pays ne se ressemblent pas. Il y a des pays qui ont eu des traditions d'accueil pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le Maroc. Il y a eu des pays où les choses ont été beaucoup plus graves, où elles l'ont été moins. Donc il ne faut pas non plus mettre tous les pays musulmans. Ils n'ont pas réagi tous de la même façon, parce que c'était des situations différentes, parce qu'il y avait des grandes communautés juives, ou bien il n'y en avait pas, ou bien parce qu'ils étaient impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que nous sommes allés vers les forces modérées de ces pays, mais pour une raison beaucoup plus de bon sens. Si nous avions commencé le projet Aladdin uniquement avec des responsables et des intellectuels juifs, le risque que nous prenions, c'est de ne pas pouvoir se faire entendre des populations musulmanes qui nous auraient dit « Ah ben voilà encore les sionistes qui sont encore en train de faire de la propagande ». Donc il fallait que nous trouvions à nos côtés des hommes et des femmes modérés, des intellectuels, des hommes qui partageaient nos valeurs et qui pouvaient faire la différence entre le conflit israélo-palestinien qui était une chose, la vérité historique, la volonté de défendre la vérité, de dire qu'il y avait eu un crime absolument barbare qui n'était pas simplement le crime qui avait été commis envers les juifs, mais qu'il y a dans l'histoire de l'humanité quelques événements qui sont des événements uniques, qui vont avoir un impact sur l'ensemble des peuples, et bien la Shoah en est un. Et à ce moment-là, on est allé regarder dans les pays qui nous semblaient proches et qui pouvaient avoir des amis que nous connaissions, est-ce qu'il y avait des hommes d'État qui étaient volontaires pour nous accompagner? Et je dois dire qu'il n'y a eu aucun problème. Alors évidemment, on a demandé au prince Hassan de Jordanie, qui était un grand ami et d'Israël et des Juifs, s'il voulait parrainer le projet Aladdin. Ça a été oui tout de suite. Le chancelier Schröder était très proche du président Chirac et a tout de suite accompagné le projet Aladdin. L'ancien président de Mauritanie était un ami aussi du président Chirac qui nous a conseillé de lui demander son parrainage. Et puis il y avait le président Moubarak. Bon, je dois dire quand même que le président Moubarak nous a envoyé des messages extraordinaires, justement en faisant la différence, et avec le grand moufti d'Égypte, qui ne pouvait pas être là au voyage, en particulier à cause des événements, nous avons eu un message vraiment de très grande qualité d'un grand croyant. Hein, et avec le président Moubarak de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a la vérité historique, il y a les grandes valeurs de fraternité, il y a les grandes valeurs qui dépassent, si vous voulez, des contingences de situation. Évidemment, c'était bien avant les événements qui allaient se dérouler maintenant, mais c'était une façon de dire très solennellement que la Shoah et le crime contre les Juifs est au-dessus, est au-delà de bien d'autres choses. Donc c'était les grands parrains d'Aladin. Avec le président Ouad, bien sûr, le président du Sénégal.
Alors pour avancer, puis pour faire le tour aussi de ce principe d'Aladin et donc de ce qu'on peut trouver sur le site, il y a beaucoup de choses autour de l'histoire et autour de la connaissance. Donc on sent bien qu'il y a aussi un pari que vous faites sur l'impact que peut avoir la diffusion du savoir historique et la diffusion de la culture de la connaissance en général. Il y a des fiches historiques sur les principes du judaïsme expliqués aux musulmans, les principes de l'islam expliqués aux juifs. Il y a aussi 40 questions sur le judaïsme, et puis il y a aussi des fiches historiques sur les communautés juives dans les pays arabes, dans la manière dont on pouvait vivre dans une certaine harmonie. Vous avez vraiment cette conviction que l'histoire et la connaissance sont la clé de ce que vous essayez de mettre en place avec Aladdin?
Écoutez, je ne sais pas si la connaissance peut résoudre tous les problèmes, mais ce que je sais, c'est que l'ignorance, c'est le terreau des fanatismes. Donc, toutes les jeunes générations sont avides de connaissances. La connaissance, elle ne suffit pas. Il faut connaître l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut s'incliner devant l'histoire, parce que l'histoire est faite de tellement de massacres et de guerres que si on continue à véhiculer toutes les haines qui sont nées de ces guerres, alors on n'en finira pas. Mais il faut toujours commencer par connaître l'histoire. Il faut comprendre les contextes aussi des historiens, mais l'histoire ne suffit pas. On a besoin de films, on a besoin de romans. Donc, mais la base, c'est quand même la connaissance et l'éducation. L'éducation, et puis la réflexion sur l'éducation, parce que nous n'allons pas nous contenter de donner de la connaissance, même si, et je dois dire que je crois qu'on a été quand même très avant-gardiste quand on a compris que les jeunes générations avaient besoin de connaissances à travers les nouvelles technologies. Donc tout de suite, Aladdin a dit, on n'y arrivera pas simplement avec le livre, il faut les téléchargements, il faut les sites internet, il faut les Twitter, les Facebook, etc., pour donner envie aux jeunes générations de s'intéresser à ces problèmes qui sont des problèmes difficiles. Et alors, tout à l'heure, vous m'avez posé le problème aussi de l'antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé aussi du judaïsme et pas simplement de la Shoah. Parce que très vite, nos amis musulmans nous ont dit, mais le problème, c'est que on dit des horreurs sur le judaïsme et on dit des horreurs sur l'histoire des juifs dans nos pays. Or, et là, je voudrais être très clair. L'histoire de la Shoah, c'est une histoire chrétienne, c'est une histoire européenne. Ça ne veut pas dire que dans les pays arabes, les juifs ont vécu de façon extraordinaire. Ce n'est pas vrai et le site Al-Adan n'a jamais prétendu cela. Simplement, nous avons fait la différence. Nous avons dit que l'antisémitisme chrétien qui avait conduit à l'horreur de la Shoah était d'une nature différente de l'antisémitisme ou de la dhimmitude qui se trouvait dans les pays musulmans. Mais ce sont nos amis d'origine séfarade, avec les amis musulmans qui nous ont dit « il faut raconter cette histoire ». Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, parce que dans ces pays, il n'y a presque plus de juifs, puisque les juifs sont partis, les intellectuels musulmans nous ont dit « racontez cette histoire, il faut l'enseigner ». Les jeunes générations ne savent même pas qu'il y avait des communautés. Il y a bien sûr des cimetières qui sont à l'abandon. Il faut raconter que ces communautés juives ont nourri l'histoire de nos pays. Il faut raconter cette histoire. Et puis, il faut raconter ce que sont les juifs. Les juifs sont souvent tellement diabolisés qu'il faut raconter que les juifs, le judaïsme a engendré le christianisme, il a engendré aussi l'islam. Mais la plupart des musulmans ne le savent pas. Donc il faut expliquer ce qu'est, bien sûr, le judaïsme, mais il ne faut pas l'expliquer de façon trop encyclopédique. Il faut l'expliquer en pensant aux personnes qui vont le lire. Et de la même façon, et ça, ce sont nos amis musulmans qui nous ont dit, mais attendez, vous parlez de dialogue, mais en réalité, il n'y a pas de dialogue, vous faites quelque chose à sens unique. Vous êtes toujours en train d'expliquer quelle est l'histoire des juifs, quelle est l'histoire du judaïsme, vous parlez de dialogue et vous nous dites c'est du respect mutuel, mais vous n'expliquez pas ce qu'est l'islam. Alors dans un premier temps, on a dit, oui, mais parce que l'islam, on n'a pas besoin de nous pour l'expliquer, puisqu'on peut trouver beaucoup d'autres sites. Et nos amis musulmans nous ont dit non. Si vous parlez de respect mutuel, alors expliquez aussi l'islam. Et c'est pour ça que quand on a fait la dernière mouture du site, on a décidé avec, donc, de la même façon, en prenant des précautions, parce qu'il faut simplifier, qu'en simplifiant, parfois on peut dire des bêtises, eh bien, on a essayé d'expliquer aussi simplement aux juifs, je dis bien aux juifs, et aux non-juifs, à tout le monde, puisqu'il y a des internautes qui, on ne sait pas quelles sont leurs confessions, expliquer assez simplement eh bien, que parfois il y a aussi des origines qui sont un peu semblables, avec toujours au fond quelque chose de moins savant, mais de dire que dans le quotidien, dans la vie quotidienne, eh bien, il y a souvent des rites qui ont été inspirés par les uns ou par les autres.
Alors, si on en vient maintenant, Anna-Marie Wkolewski, à ce voyage organisé à Auschwitz à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pourquoi de ce voyage et la manière dont vous avez essayé de l'organiser ?
Alors, je sais, on ne l'a pas fait parce que c'était l'anniversaire. Ce voyage, ça fait déjà 2 ans que je voulais l'organiser. On avait quasiment ficelé ce voyage il y a 2 ans. Et puis il y a eu Gaza. C'était pas le moment. On s'est bien rendu compte qu'il y avait trop de violence et qu'il fallait que les esprits soient un peu apaisés. Et donc on a un peu attendu. Et d'ailleurs, ça nous a permis de composer la délégation un peu différemment. On a voulu au fond faire des choses très simples. L'année dernière, nous sommes allés, exactement il y a 1 an, nous sommes allés dans 10 capitales du monde arabe pour lire Primo Levi. Toujours avec cette idée, on va lire un livre, on va apporter on va y venir avec des historiens, on va y venir avec des professeurs de littérature, et on va expliquer, on va lire Primo Levi. On est allés, les uns de toute l'équipe d'Aladin, à Bagdad, à Erbil, à Casablanca, à Tunis, à Istanbul, à Amman, en Jordanie, à Nazareth, à Jérusalem, où c'était pas formidable. On est allés dans 10 capitales arabes, et on a lu Primo Levi. Et puis, on s'est dit, cette année, nous, on est allés là-bas. D'accord, mais c'est abstrait. Maintenant, il faut qu'ils viennent ici. Il faut qu'ils viennent voir. Ils ont entendu. Maintenant, tous ces intellectuels, on a besoin maintenant qu'ils viennent où ? Eh bien, qu'ils viennent là où Primo Levi a écrit. Il fallait qu'ils viennent à Auschwitz. Et il fallait qu'ils viennent à Auschwitz parce que vous ne pouvez pas vous imaginer combien les gens sont ignorants. Et je ne parle même pas de tous les représentants du monde arabe, mais je dis même que tous les représentants du monde français, et même des journalistes français, qui sont dans une telle ignorance, parce qu'ils ont appris ça à l'école, et qu'on sait bien que l'actualité change, et qu'on mélange un peu tout, et qu'on mélange la déportation, l'extermination, on ne sait pas très bien, et est-ce que c'était les tziganes, et est-ce que c'était les juifs, mais pourquoi, quand est-ce que ça a commencé ? Donc, il fallait amener les gens sur place. il fallait leur dire, voilà, Auschwitz, c'est le camp de la déportation. C'est là où sont arrivés les résistants, les droits communs, les soviétiques, les polonais, les français. À Birkenau, c'est le camp d'extermination. Ça, c'est le camp des juifs. Et dans ce camp des juifs, les juifs n'y entraient même pas. Ils étaient sélectionnés en dehors du camp. Et quand ils étaient sélectionnés en dehors du camp, ils allaient directement par camion à la chambre à gaz. Mais tant qu'on ne va pas là-bas, tant qu'on ne comprend pas qu'ensuite, parce qu'en 1944, il fallait déporter près de 450 000 juifs hongrois qui restaient en 2 mois, et qu'à ce moment-là, ce sont les détenus eux-mêmes qui ont construit les voies ferrées à l'intérieur du camp pour les amener le plus près possible de la chambre à gaz, et qu'on voit les ruines de la chambre à gaz. Alors là, vous avez les 200 personnes emmitouflées dans leur couverture, qui étaient des Africains, qui étaient des Marocains, qui étaient des Algériens, qui étaient des Tunisiens aussi, puisqu'il y a un Tunisien qui est venu, malgré les événements qui a tenu à venir, des Palestiniens qui sont venus, et qui ont essayé de comprendre comme ils pouvaient, où est-ce qu'ils se trouvaient, et qui disaient, mais c'est pas possible, c'est pas possible, mais qui sont passés par leur propre histoire. Et je dois dire, vous savez, quand j'ai entendu le maire de Sarajevo, pas le grand moufti, le maire de Sarajevo, qui écoutait, qui regardait, qui était silencieux, qui est venu ensuite à Auschwitz, parce qu'à Auschwitz, c'est le musée, à Birkenau, on voit rien. On voit simplement la désolation et la mort. Mais quand on va à Auschwitz, et quand on voit les tonnes de cheveux, et quand on voit les petites chaussures des enfants, et quand on voit les brassières des bébés, eh bien, ils entraient et ils sortaient terrifiés. Et le maire de Sarajevo m'a dit, moi je pensais qu'avec ma ville qui avait été détruite, j'avais vu le pire. C'est pour ça que je suis venue, mais j'appréhendais. Eh bien, j'ai compris que c'était bien pire, mais il a fallu que je passe par ma ville détruite de Sarajevo. Et quand le grand moufti, après le grand rabbin Lao, qui, et après le cardinal 23, dit « Finalement, je ne savais pas ce que c'était que la Shoah, il m'a fallu Srebrenica pour comprendre. » Et quand il dit, mais avec une émotion d'une très grande authenticité, il dit « Mais vous savez, au fond, c'est parce que je ne connaissais pas la Shoah, c'est pas que je la niais, mais je ne la connaissais pas, que moi-même, ce qui m'est arrivé m'est tombé dessus. Et celui qui nie la Shoah, celui qui nie Srebrenica, c'est comme s'il faisait 2 fois. C'est comme s'il tuait 2 fois. Alors, j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient été choqués, mais je ne comprends même pas pourquoi ils sont choqués. C'est exactement le langage de tous les survivants qui disent « Quand on nie ce qui s'est passé, c'est comme si on nous tuait 2 fois. » C'est exactement ce qu'ils ont tous dit. Moi, j'ai une de mes amies qui est membre du conseil d'administration d'Aladin, qui est une Sénégalaise, hein, Madame Diolo Ndiaye. Elle était avec moi, elle avait froid, elle était dans sa grande couverture rouge, parce que tout le monde se confondait, hein. Les journalistes, ils erraient partout, parce qu'on ne reconnaissait personne, il y avait tellement de personnalités, qui m'a dit, mais moi, mes arrière-arrière-grands-parents, c'était des esclaves. Je croyais que vraiment, il ne pouvait rien y avoir de pire. Mais en fait, tu vois, ta souffrance et la mienne, je sais bien que ce n'est pas pareil. Mais c'est la même souffrance contre les hommes. Et c'est formidable qu'on soit tous ici. Parce que on est tous venus avec nos souffrances. Mais on a compris qu'ici, il y a eu le pire du pire du pire, même si il nous faut un peu de temps pour l'assimiler. Et ce moment-là, il fallait vraiment qu'on soit tous là pour entendre ensemble les survivants qui racontaient. Et je vous assure que quand à un moment donné, je crois que c'est Ida Grinspan, on lui a posé une question un peu idiote. Et elle était un peu excédée par la question. Mais je comprends parce qu'il ne savait pas tout ce qui s'était passé. Alors, elle a soulevé son bras. Elle a montré son numéro. Et alors, il y a quelqu'un qui lui a dit « Ah bon ? Mais on vous a écrit des numéros ?» Mais elle dit « Mais non seulement on nous a écrit des numéros, on nous a tatoués comme si on était du bétail. Et ensuite, on était simplement là pour être au garde à vous parce qu'on n'avait plus de nom. C'est à peine si on se souvenait de nos noms. » Eh bien, cette expérience a eu tellement d'impact que quand ces 200 personnes sont revenues, tous très graves et abîmés dans leurs pensées, ils nous ont tous dit « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et alors là, maintenant, je dois dire qu'à la fin du voyage, on a beaucoup de projets. Et chaque pays va faire un projet différent qui va correspondre à sa propre histoire.
Merci beaucoup Anne-Marie Revkolevski. Donc je rappelle que vous êtes responsable du projet Aladdin et que l'on peut consulter énormément de documents sur votre site qui donne aussi accès à une bibliothèque numérique gratuite. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom précis de ce site ?
Alors le site du projet Aladdin, c'est en français le projet Aladdin, www.leprojetaladdin en anglais, The Aladdin Project. Et la bibliothèque numérique, c'est The Aladdin Library. Voilà.
Merci encore. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org et le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.